CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
CFAQ vous présente le condensé juridique. Un condensé du meilleur des chroniques de vulgarisation juridique présentées par les étudiantes et étudiants de la Faculté de droit, diffusé dans le show du retour.
Le Touski.
Le condensé juridique, l'émission parfaite pour connaître et comprendre vos droits. CFAQ 88.3. L'essence de l'information.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons avec nos capsules juridiques, balado logement. La capsule d'aujourd'hui est le logement impropre à l'habitation. Alors, définissons d'abord ce qu'est un logement impropre à l'habitation. Qu'est-ce qu'un logement impropre à l'habitation ? C'est un logement qui constitue une menace sérieuse pour la santé et la sécurité de ses occupants ou du public. Et en vertu de la loi, un propriétaire ne peut délivrer un tel logement. Un plafond sur le point de s'effondrer, une moisissure toxique ou encore l'absence d'eau courante, voilà des facteurs qui peuvent affecter l'état de votre logement. Et selon la gravité du cas, des recours spécifiques s'offrent aux locataires victimes d'un logement impropre à l'habitation. Et ces solutions sont, par exemple, la résiliation du bail, quitter son logement de manière temporaire le temps que la réparation soit effectuée ou refuser d'emménager dans le logement insalubre s'il n'a pas évidemment déjà emménagé. Donc, les trois cas de figure qui contiennent des recours différents se présentent aux locataires et selon la situation dans laquelle ils se trouvent, soit avant d'emménager, soit après avoir emménagé ou bien après avoir quitté le logement. Et on se propose aujourd'hui donc d'étudier plus en détail chaque situation. Commençons par le cas où le locataire n'a pas encore emménagé. Si votre logement est impropre à l'habitation, au moment où vous emménagez, vous pouvez tout à fait refuser d'y emménager. C'est très simple. Votre bail pourra alors être résilié. Toutefois, il faut être prudent, car un logement en mauvais état d'habitabilité n'est pas automatiquement considéré impropre à l'habitation. Après avoir emménagé, on a trois possibilités. Le logement devient impropre en cours de bail. Alors, vous habitez déjà le logement et il devient impropre à l'habitation. Vous pourriez quitter votre logement en cours de bail. Cependant, vous devez rédiger un avis informant votre propriétaire de votre départ tout en lui précisant les raisons qui vous forcent à quitter le logement. Et vous aurez alors un maximum de 10 jours après votre départ pour aviser votre propriétaire, pour écrire cet avis en d'autres termes. Alors, regardons un peu les éléments qui doivent être contenus dans cet avis. Donc, l'avis que vous devez faire parvenir à votre propriétaire doit indiquer des éléments précis. Ces éléments sont évidemment le nom et l'adresse du propriétaire, ça paraît banal mais précisons-le, l'adresse du logement concerné, les raisons pour lesquelles le logement est impropre à l'habitation, la date à laquelle vous envisagez de quitter le logement ou celle à laquelle vous avez quitté le logement. Souvenez-vous que vous devez informer votre propriétaire au plus 10 jours après votre départ si vous quittez le logement et votre nouvelle adresse et votre numéro de téléphone. Et vous pouvez trouver un modèle d'avis disponible sur le site du tribunal administratif du logement. Rappelons encore une fois que le tribunal administratif du logement, c'est simplement le nouveau nom qui a été donné à la régie du logement. Précisons que le simple envoi de cet avis au propriétaire vous exempte de payer le loyer pendant la période durant laquelle le logement est impropre à l'habitation. Attention toutefois, car cet avis ne règle pas tout. Il ne vous suffit pas d'émettre cet avis à votre propriétaire pour que tout soit réglé. Votre propriétaire peut contester votre départ en s'adressant au tribunal administratif du logement. Il pourra le faire s'il croit que le logement est propre à l'habitation ou bien que le mauvais état du logement a été causé par votre négligence. Alors, étudions maintenant le cas où le locataire abandonne le logement. Alors, dans ce cas, le locataire doit aviser le propriétaire de l'état du logement avant l'abandon ou dans les 10 jours qui suivent. Avant de quitter le logement, le locataire doit raisonnablement être certain que le propriétaire ne résoudra pas le problème rapidement. Si le locataire a avisé le propriétaire de son départ, il y a deux choses à savoir. Deux choses. La première, c'est que le bail n'est pas automatiquement résilié. Et la deuxième est que le locataire est dispensé de payer le loyer pendant toute la durée durant laquelle le logement est impropre à l'habitation. Ça, c'est si le locataire a avisé le propriétaire de son départ. Maintenant, si le locataire n'a pas avisé le propriétaire de son départ, le locataire doit continuer à payer son loyer. Donc, assurez-vous bien d'aviser votre propriétaire de votre départ. Gardez des rapports cordiaux avec votre propriétaire et tenez-le au courant de votre situation. Si vous n'avisez pas votre propriétaire de votre départ et qu'un problème devait arriver dans le logement, vous pourriez être tenu responsable des dommages résultant de votre absence de communication. Enfin, si vous ne prévenez pas le propriétaire de votre départ, celui-ci pourra soit exercer un recours en dommages-intérêts contre vous, soit demander la résiliation du bail. Donc, nous ne le répéterons jamais assez, maintenez et entretenez une ligne de communication ouverte avec votre propriétaire et signifiez-lui vos intentions. Si, après avoir quitté votre logement devenu impropre à l'habitation, et que celui-ci redevenait propre à l'habitation, le propriétaire a l'obligation de vous en informer à condition que vous lui ayez laissé votre nouvelle adresse. Vous aurez alors 10 jours pour aviser le propriétaire de votre intention de réintégrer le logement ou pas. Dans les cas où vous n'avez pas laissé votre nouvelle adresse au propriétaire ou que vous lui avez fait part de votre intention de ne pas réintégrer le logement, le bail est résilié et le propriétaire pourra faire louer le logement à un autre locataire. Enfin, après avoir quitté le logement, si dans l'avis que vous avez fait parvenir à votre propriétaire lorsque vous avez quitté le logement, vous avez fourni votre nouvelle adresse, alors le propriétaire a l'obligation de vous aviser dès que le logement sera redevenu propre à l'habitation. Et comme nous vous le disions tantôt, vous auriez 10 jours pour l'aviser de votre intention de réintégrer le logement ou pas. Donc voilà les cas de figure où le locataire dont le logement est devenu impropre à l'habitation pourra recourir à des possibilités de soit résilier le bail, soit de quitter son logement de manière temporaire, ou bien, s'il n'a pas encore emménagé, carrément de refuser d'emménager dans le logement insalubre. Voici donc l'objet de la capsule « Le logement impropre à l'habitation », donc qui, nous le rappelons, est rédigé par les étudiants en droit bénévole de la section Pro Bono Canada de l'Université de Sherbrooke. Merci, chers
amis. Le condensé juridique, l'émission parfaite pour connaître et comprendre vos droits. CFAQ 88.3, l'essence de l'information.
La présente capsule ne contient aucun conseil juridique. La présente capsule a été préparée avec l'aide d'étudiants en droit bénévole de la section Pro Bono Students Canada, Université de Sherbrooke. Les étudiants de Pro Bono Students Canada ne sont pas avocats ou notaires et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou un notaire.
Bonjour, chers auditeurs, et re-bienvenue dans nos capsules sur le droit du logement. Aujourd'hui, le sujet de la capsule sera le droit d'avoir des animaux dans son logement. Donc, ça doit être un sujet quand même assez intéressant pour beaucoup d'auditeurs. Donc, je vous mets un peu en contexte, là. Par exemple, vous êtes finalement prêt là, à déménager de chez papa-maman. Vous avez trouvé un beau logement vraiment parfait dans votre budget. Il est bien situé. Vous êtes prêt à commencer votre nouvelle vie avec votre fidèle compagnon Pookie, votre chihuahua qui va vous accompagner dans votre nouvelle aventure. Et au moment de signer votre bail, ben vous réalisez que votre futur locataire, donc le propriétaire du logement, ne permet pas la présence d'animaux dans votre logement. C'est sûr que ça va vous mettre un peu de bâton dans les roues pour commencer cette nouvelle aventure avec votre animal de compagnie. Donc en principe, c'est sûr qu'un locataire doit absolument vous aviser avant la signature de votre bail si jamais il ne veut pas que vous viviez avec un animal de compagnie dans son logement. Puis comme je l'ai mentionné à la capsule numéro 2 sur les clauses abusives, votre propriétaire peut aussi décider de seulement refuser des animaux précis. Par exemple, son choix n'a pas été super logique. Il pourrait accepter des écureuils, mais refuser des chiens, là, par exemple. C'est un exemple assez farfelu, là, mais je trouve que ça permet de voir à quel point là, il peut avoir un choix personnel. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des limitations. S'il y a des limitations qui concernent la présence d'animaux dans votre logement, ça va être écrit dans votre bail ou dans le règlement de l'immeuble qui vous est remis avant la conclusion du bail. Je peux pas le répéter assez, c'est vraiment super important de lire ce qu'on signe. Si vous avez signé votre bail, puis vous avez pris connaissance du règlement de l'immeuble, sans vraiment avoir lu puis prêté attention, ben ça va être difficile de vous plaindre par la suite. Vous appelez votre propriétaire, « Ouais, bonjour, ouais, non, je savais pas vraiment que j'avais pas le droit. Ouais, non, j'ai comme pas vraiment lu mon bail. Fait que je peux vraiment pas avoir de chien, tu sais. » Ça va avoir l'air un peu fou, fait que c'est vraiment important de bien lire ce que vous signez. Puis c'est vraiment le propriétaire qui va avoir le dernier mot dans ces cas-là. si vous voulez continuer à habiter dans le même logement, ben votre propriétaire va pouvoir vous demander de vous débarrasser de votre animal. C'est pas toujours facile, même c'est presque jamais facile. On devient super attaché à nos animaux de compagnie, mais même si votre animal il cause pas de tort aux autres locataires, tu sais, il fait pas trop de bruit, etc. Ben votre propriétaire va quand même pouvoir exiger le respect de la clause dans votre bail quand même. Aussi, par exemple, si vous savez que vous avez pas le droit d'avoir un animal de compagnie et vous savez pertinemment là, que c'est dans votre bail, mais que vous, par exemple vous achetez un chat. Puis ce chat-là vit avec vous depuis 6 mois sans que personne s'en rende compte. Mais un jour, votre propriétaire a besoin de quelque chose, il cogne à votre porte, puis surprise, votre chat passe entre vos jambes. Bon, c'est toujours une possibilité de s'adresser au tribunal administratif du logement pour prouver que l'interdiction des animaux va être déraisonnable selon certaines circonstances. Par contre, c'est sûr que je vous dis que le tribunal a beaucoup de tendance à rendre des décisions en faveur du propriétaire quand que l'interdiction des animaux est inscrite au bail et dans le règlement, puis que vous avez signé et pris connaissance des deux. Le tribunal, il fait juste donner raison au contrat, dans le fond, que vous avez signé. Les clauses d'interdiction d'animaux sont généralement pas considérées comme abusives, donc ils vont généralement avoir tendance à donner raison au propriétaire dans ces cas-là. C'est sûr qu'il y a des exceptions à cette règle-là. L'une d'entre elles concerne le handicap du locataire qui va avoir besoin d'un animal pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Habituellement, cet animal-là est un chien qui est bien dressé pour rester silencieux et faire ses besoins. Puis le besoin du locataire d'avoir un animal pour surmonter un handicap, ça va passer avant ce qui est écrit au bail parce que c'est en rapport avec la Charte des droits et libertés de la personne. Fait qu'à moins que ça cause vraiment trop de travail au locataire, votre propriétaire va devoir accepter d'accommoder le locataire qui a besoin d'un animal, comme par exemple un chien Mira. L'autre exception, c'est un peu plus vague, puis c'est moins vu en pratique. Quelquefois, le tribunal administratif du logement va donner raison à des locataires qui ont besoin de leur animal pour des fins de zoothérapie. C'est vraiment des règles strictes à suivre, c'est pour ça que c'est moins vu. Puis c'est souvent difficile à prouver, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'études qui sont faites sur les bienfaits de la zoothérapie. Puis il faut souvent avoir une prescription médicale qui justifie notre besoin. Donc, encore une fois, les médecins sont pas très à cheval. OK, désolée, cette blague de mauvais goût. Ils sont pas très à cheval là-dessus. Donc, ils sont pas au courant des statistiques, ils sont pas au courant des bienfaits non plus. Fait que ça va pas être un réflexe non plus de donner une prescription médicale pour aller s'acheter un chien. Et dans la plupart des cas, l'animal que j'ai vu dans la jurisprudence, donc dans les cas passés, l'animal ne doit pas avoir été acheté avant le développement du besoin de la zoothérapie. Fait qu'on vous fait pas dire j'ai développé un besoin de zoothérapie, est-ce que je peux garder mon chien que ça fait 5 ans que j'ai. Non, c'est un peu plus difficile à plaider devant un tribunal et un juge. Mais bien sûr, il y a des cas où vous êtes autorisé à avoir un animal, il y a des propriétaires qui le permettent. C'est sûr que c'est pas la majorité des cas, mais c'est possible. Ça ne modifie pas par contre vos obligations en tant que locataire. C'est pas parce que vous avez un chat que votre propriétaire va endurer que votre animal fasse ses besoins chez ses voisins. T'sais, avoir le droit d'avoir un animal dans son logement, c'est un privilège. Vous êtes responsable de votre animal, même si vous n'êtes pas présent en tout temps dans le logement avec lui. Vous devez respecter le droit des autres locataires aussi à la jouissance paisible des lieux. Par exemple, si votre chien jappe trop quand vous n'êtes pas là, ben ça pourrait nuire aux droits des autres. En gros, faut faire preuve de savoir-vivre. Si vous avez des animaux, va nécessairement falloir faire un peu plus de ménage. Faut pas abuser du droit que vous avez d'avoir un animal. Par exemple, si vous avez droit à des chats dans votre logement, ben allez pas en acheter 8 dans un 2,5. Tu sais, il faut être raisonnable un peu. Puis le non-respect de vos obligations en tant que locataire, si ça cause un préjudice à votre propriétaire ou aux autres locataires de l'immeuble, ben votre propriétaire pourra éventuellement demander la résiliation de votre bail. Bon, je le répète là, comme j'ai dit, le droit d'avoir un animal de compagnie, c'est un privilège, puis ce privilège-là vient avec son lot de responsabilités. Donc, si jamais vous n'êtes pas capable de respecter vos obligations, votre privilège va pouvoir s'éteindre également. Donc, pour finir, je vais parler aussi des droits en tant que locataire si jamais un animal dans l'immeuble vous dérange. C'est sûr que c'est tout le temps recommandé d'aller d'abord parler avec la personne du problème, avec la personne concernée. Selon moi, tu sais, c'est toujours mieux d'essayer de trouver une solution de façon amicale que de tout de suite intenter un recours contre quelqu'un, là, ça peut être un peu violent là, de se faire poursuivre d'un coup comme ça sans jamais avoir de préavis. Souvent, on va pouvoir s'entendre là, sur une sorte de plan de match. Si après ces discussions-là, vous êtes toujours pas satisfait, ben vous aurez alors au moins essayé de régler votre problème toute seule. Et la prochaine étape, ben ça va être d'en parler à votre propriétaire pour qu'il fasse des démarches nécessaires lui aussi pour régler le problème. Puis là, à ce moment-là, si ça fonctionne pas non plus, vous allez pouvoir avoir un recours contre votre propriétaire s'il fait pas quelque chose pour remédier à la situation puis à votre problème avec le locataire et l'animal concerné. Donc, voici qui conclut la petite capsule sur le droit des animaux. Ben, en fait, pas le droit des animaux, mais le droit d'avoir un animal dans son logement ou ne pas avoir le droit. Donc, on vous remercie de votre écoute et on se revoit dans la prochaine capsule.
Je m'aime. Que ma blonde part dans le vide.
Le condensé juridique, l'émission parfaite pour connaître et comprendre vos droits. CFAQ 88.3, l'essence de l'information.
Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à nouveau dans notre capsule juridique sur le logement. La capsule d'aujourd'hui porte sur le chauffage et le logement. Alors, on pourrait croire que le gros bon sens, le GBS, comme on dit, guide les questions liées au chauffage dans un logement. Et c'est souvent le cas. En effet, allumer son chauffage quand les premiers signes de l'hiver apparaissent peut sembler évident. Mais, dans bien des situations, des désaccords peuvent survenir entre locataires et propriétaires et ça peut chauffer entre eux. Mais pas dans le sens auquel on s'attendrait. Dans cette capsule portant sur le chauffage et le logement, on se propose donc de faire un bilan général des obligations de chaque partie, le propriétaire et le locataire, et d'étudier quelques situations conflictuelles qui pourraient survenir. Alors, la manière simple de procéder dans cette capsule est simplement de poser des questions que beaucoup de locataires se posent pendant l'hiver et tenter d'y répondre. Alors la première question que on peut se poser, qu'on est en droit de se poser, c'est qui doit payer le chauffage? Ça dépend du bail. Au moment de la signature du bail, le propriétaire et le locataire déterminent qui paie les différents frais, comme le chauffage à l'électricité. Il n'y a pas de règle préétablie. Ça dépend de la volonté des parties. Lorsque le bail indique que le chauffage est à la charge du propriétaire, celui-ci ou celle-ci est tenu par la loi d'assurer au locataire une température adéquate, et ce, quelle que soit la période de l'année. Alors justement, à quel moment le propriétaire doit-il commencer à chauffer le logement? Eh bien, si c'est le proprio qui contrôle la température du logement, c'est à lui ou à elle de veiller à ce que la température soit adéquate, et ce, pour toute la durée du bail. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aucune disposition dans la loi ne prévoit le moment précis de l'année auquel le proprio doit commencer à faire chauffer le logement. Une telle disposition n'aurait pas beaucoup de sens au Québec, puisqu'on imagine bien qu'il puisse faire froid au mois de septembre ou octobre, par exemple, et chaud en mars-avril. C'est tout à fait possible. Par conséquent, un propriétaire ne pourra jamais faire valoir une clause dans un bail pour justifier de ne pas faire chauffer le logement à telle ou telle période de l'année. Une clause du bail qui stipule une date précise à laquelle le chauffage débute est tout simplement invalide. Alors une question que se posent beaucoup d'auditeurs et de locataires, c'est à quel degré la température doit-elle être maintenue? Alors, le tribunal administratif du logement, anciennement la régie du logement, admet que la température d'un logement doit rester au-dessus d'un certain seuil, que le tribunal estime à 21 degrés Celsius ou 70 degrés Fahrenheit. Cependant, aucune loi ne prévoit un degré minimal de température à l'intérieur du logement. Tout logement doit être habitable. C'est la règle. Tout logement doit être habitable, ce qui signifie que le chauffage doit être suffisant et raisonnable. Alors, en cas d'absence du locataire, le locataire doit-il chauffer son logement? Oui, absolument. Alors, il faut bien faire attention. Pendant l'hiver, si un locataire est absent de son domicile pour une durée relativement longue, plusieurs semaines, par exemple. La température du logement doit rester convenable pour ne pas endommager le logement. C'est d'autant plus important si c'est le locataire qui contrôle le chauffage. Il doit en effet s'assurer que la température à l'intérieur du logement est adéquate pour éviter que les tuyaux de l'immeuble ne gèlent. En cas de négligence de la part du locataire et si les tuyaux se trouvaient endommagés par la faute de celui-ci, le propriétaire pourrait tout à fait déposer une plainte devant le tribunal administratif du logement. Il faut aussi noter que si le chauffage est à la charge du locataire, il revient à lui ou à elle de maintenir une température adéquate à l'intérieur du logement, en veillant à ne pas le surchauffer afin d'éviter toute détérioration du logement. Le locataire ou la locataire est aussi tenu de veiller à utiliser les appareils de chauffage de manière adéquate. Ceci signifie qu'il est possible d'aérer une pièce pendant quelques minutes sans toutefois laisser les fenêtres ouvertes pendant plusieurs heures, alors que le chauffage est en marche. Alors que faire s'il y a une panne de chauffage ? Alors, il est de la responsabilité du propriétaire d'assurer le bon fonctionnement du système de chauffage en tout temps. Il faut le rappeler. En cas de panne de chauffage pendant l'hiver, le locataire doit informer le propriétaire le plus rapidement possible. En cas de panne de chauffage pendant l'hiver, le locataire doit informer le proprio le plus rapidement possible. Dans ce cas, on peut anticiper une contestation potentielle. Et dans ce cas, il est important de réfléchir à la preuve de cette communication. Alors, le locataire ne devra pas se contenter de passer un coup de téléphone et croire que cela sera suffisant. Donc, pourquoi ? Parce que essayer de trouver une preuve à cette communication, il faut que cette preuve soit adéquate. Et l'écrit est toujours la meilleure des preuves. Donc, en plus d'un coup de téléphone, un avis écrit accompagné d'une preuve de réception facilitera la protection des intérêts du locataire. Donc, il suffira de faire la démonstration que le locataire a bien contacté et avisé son propriétaire de la panne de chauffage. Cette preuve se fera par écrit et cet écrit sera accompagné d'une preuve de réception. Évidemment, ceci n'empêche pas de passer un appel aussi. On rassure tout de suite les locataires. La plupart des propriétaires sont raisonnables lorsqu'il est question de panne de chauffage en hiver. Si le proprio n'est pas en mesure de résoudre la panne sur le champ, il ou elle pourra placer une génératrice, entre autres alternatives d'appoint, pour corriger le problème de manière temporaire. Si le proprio n'est pas proactif dans la résolution de la panne ou s'il refuse d'agir, le locataire pourra alors effectuer les travaux nécessaires dans le logement ou procéder à la réparation du problème, soit par lui-même, soit en faisant appel à un technicien, dont les frais pourront éventuellement être réclamés plus tard au propriétaire. Dans une situation d'urgence, le locataire pourrait réclamer un remboursement de ses dépenses au propriétaire à condition que celle-ci, les dépenses, soient raisonnables compte tenu de la situation. Attention, ceci ne s'applique que dans la situation d'urgence. Encore une fois, rappelons-le, pour faire la preuve de ces réparations, le locataire devra veiller à garder tous ses reçus et devis d'experts. Dans tous les cas, en cas de panne de chauffage, le proprio doit permettre au locataire d'utiliser raisonnablement le logement et ainsi éviter que l'immeuble ne subisse des dommages, comme on l'a vu tout à l'heure avec les tuyaux de l'immeuble susceptibles de geler. Alors, la dernière question qu'on est en droit de se poser, c'est « Et si le propriétaire ne maintenait pas le logement à une température acceptable ?» Alors, le locataire aura trois possibilités. La première, c'est de communiquer directement avec le proprio et lui faire part de sa volonté de voir la température du logement augmenter et être maintenu à un niveau acceptable. Donc, simplement, allez trouver votre proprio et dites-lui que vous aimeriez que la température augmente dans votre logement. Idéalement, cet avis, en plus d'être transmis oralement par téléphone, devrait être couché à l'écrit. La deuxième possibilité qui s'offre au locataire, c'est de laisser un délai raisonnable d'action au propriétaire pour qu'il ou elle remédie au problème. Voilà. Donc, laissez-lui le temps d'agir. Et la troisième possibilité qui s'offre au locataire, s'il ou elle n'est pas satisfait de la température du logement, eh bien, en cas d'inaction de la part du proprio, vous pourriez lui envoyer une mise en demeure. Si aucune réaction n'est entreprise par le ou la propriétaire et que la température du logement reste en deçà des souhaits raisonnables du locataire, rappelons encore une fois le seuil de 21 degrés qui est préconisé par le tribunal administratif du logement, alors celui-ci pourra présenter une demande auprès du tribunal administratif du logement. Comme nous vous le rappelions dans une capsule précédente, tous ces recours existent et ils sont à la disposition des locataires. Mais Nous vous rappelons que maintenir un rapport cordial avec votre propriétaire, dans la plupart des cas, pourrait être la solution à vos problèmes. Voilà, donc c'était la capsule sur le chauffage et le logement qui, rappelons-le, est réalisée par les étudiants en droit de l'Université de
Chartres. La présente capsule ne contient aucun conseil juridique. La présente capsule a été préparée avec l'aide d'étudiants en droit bénévole de la section Pro Bono Students Canada, Université de Sherbrooke. Les étudiants de Pro Bono Students Canada ne sont pas avocats ou notaires et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou un notaire. Bonjour et re-bienvenue dans nos capsules de vulgarisation juridique sur le droit du logement. Dans cette capsule-ci, on parlera ensemble de rénovation-construction dans le logement. Fait que quand on parle de travaux dans le logement, que ce soit construction, rénovation, réparation, il y a surtout plusieurs lois et obligations, contraintes qui vont s'appliquer aux propriétaires, mais aussi aux locataires, faut pas les oublier. C'est important dans les deux cas de s'informer, bien entendu, pour exécuter les travaux nécessaires, pour conserver des bonnes relations entre le locataire et le propriétaire et pour éviter d'aller à l'encontre de la loi qui va mener à des sanctions salées si jamais vous contrevenez à la loi quand il est question de réparation-construction dans le logement. Une des lois les plus importantes à connaître, c'est la loi R20. Donc, c'est la loi en matière de tout ce qui est relations de travail, formation professionnelle, gestion de main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Le principe général de cette loi-là, c'est que toutes les activités de construction doivent obligatoirement être exécutées par un salarié qui va posséder un certificat de compétence de la Commission de la construction du Québec et dont l'employeur va avoir une licence d'entrepreneur qui va être émise par la Régie du bâtiment du Québec. Donc, c'est pas vraiment à la guise du propriétaire ou du locataire de faire lui-même des travaux de construction ou d'engager leur semble bon pour effectuer les travaux de construction. C'est sûr qu'il y a plusieurs exceptions à ça qui vont permettre au propriétaire d'effectuer lui-même des travaux ou qu'un de ses employés pourrait le faire aussi ou même qu'un entrepreneur va les exécuter sans nécessairement être assujetti à la loi R20 dont j'ai parlé. Donc, l'exception principale, ça va être les travaux mineurs. Donc, il va y avoir une distinction à faire entre les travaux mineurs versus les travaux majeurs. Donc, la distinction essentielle à faire, c'est que si on est dans un cas de travaux de construction visés par la loi R20 ou pas. Les travaux mineurs vont comprendre la réparation, l'entretien du bâtiment locatif ou tout type d'habitation à louer qui sont faits sur une base régulière ou préventive pour que le bâtiment se détériore pas ou simplement pour juste l'améliorer un peu. Ça pourrait s'agir, par exemple, de réparer un trou dans le mur, de poser une nouvelle couche de peinture pour rafraîchir les murs, ou même de remplacer une porte. Donc, ça, c'est vraiment travaux mineurs. Tandis que les travaux majeurs, ça va comprendre plus des travaux de construction qui toucheraient des travaux de fondation, de démolition, d'électricité, de plomberie et plus encore. Donc, ça va être vraiment plus des travaux majeurs qui vont être régis par la loi R20, puis vont pouvoir seulement être effectués par les salariés, puis les salariés avec le certificat dont j'ai parlé un peu plus tôt, avec l'employeur, avec une licence émise par le Québec. Et les travaux mineurs, donc, vont pouvoir être effectués par le propriétaire ou un de ses employés, par exemple. Comme je l'ai dit, la loi va comporter beaucoup d'exceptions, donc la loi R20. Il faut donc vérifier dans chaque cas avant de commencer à faire des constructions, rénovations chez nous. C'est aussi à noter là que à moins d'une entente particulière entre propriétaire et locataire, c'est rarement le locataire lui-même qui va effectuer les travaux sur le bâtiment locatif. Je vous invite à consulter, c'est un article de la loi intéressant, ça s'appelle le journal du propriétaire sur le tribunal administratif du logement, si je me trompe pas. Donc, vous allez pouvoir trouver vraiment plus d'informations sur ça, sur les modalités de construction régies par la loi puis les exceptions. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça, c'est super intéressant. Je peux vous donner un petit exemple rapidement. Donc, par exemple, si je suis propriétaire puis je vais changer les portes d'armoire de la cuisine pour que elles soient plus belles, là, je les trouve plus belles. Fait que je vais changer mes portes d'armoire. Est-ce que c'est des travaux que je peux effectuer moi-même? Oui.
Donc, c'est des travaux mineurs. Donc, en tant que propriétaire, c'est possible pour moi de changer des portes d'amorce du logement. Fait que ça vous donne comme un exemple de ce que je peux faire et ne pas faire. On va aussi passer maintenant aux formalités nécessaires pour que le propriétaire qui veut effectuer des travaux en cours de bail. Donc, tout d'abord, le propriétaire va avoir l'obligation pour des travaux qui vont nécessiter aucune évacuation ou une évacuation d'une semaine ou moins. On va devoir donner un avis au locataire de 10 jours. Donc, 10 jours avant de commencer. Et pour une évacuation de plus d'une semaine, l'avis doit être remis au minimum 3 mois à l'avance. Dans tous les cas, l'avis va devoir contenir ce que les travaux vont faire au logement, la nature, la date à laquelle les travaux vont commencer et un approximatif à la date auquel ils vont terminer. Il faut, mais comme je disais, il faut indiquer la durée approximative des travaux puis la période d'évacuation si jamais il y a eu une estimation du temps que ça allait prendre là, pour que le locataire s'organise de son côté. Puis par rapport à ça, un montant va être offert au locataire comme indemnité si jamais il y a évacuation des lieux puis la perte de jouissance partielle du logement. Donc, ça va être une indemnité là, qui va être offerte pour qu'il soit capable de se loger en dehors de son logement en construction. Si l'avis mentionne la nécessité d'une évacuation, donc le locataire va avoir 10 jours à partir du moment où il reçoit l'avis pour l'accepter ou s'y opposer. Contrairement à plusieurs autres situations, le fait pour le locataire de pas répondre à l'avis, ça vaut un refus d'évacuer les lieux. Donc, s'il dit non, donc on va prendre pour acquis qu'il refuse de sortir de son logement pour la construction. Donc, le propriétaire va pouvoir alors, dans les 10 jours du refus, donc à partir du moment où il va avoir 10 jours, il va pouvoir s'adresser au tribunal administratif du logement pour fixer des conditions justes et raisonnables par rapport aux travaux et aux besoins d'évacuation. Le locataire a donc l'obligation de donner accès à son logement pour que le propriétaire, un de ses employés ou un entrepreneur puisse y effectuer les travaux. Puis si c'est pas opposé à l'avis du propriétaire, le tribunal administratif du logement va autoriser les travaux ou une entente conclue entre le propriétaire et le locataire. Et si le locataire donne accès à son logement sans l'évacuer, le propriétaire peut faire ses travaux seulement entre 7 heures du matin et 7 heures du soir, à moins que le locataire et le propriétaire s'entendent pour un horaire différent qui va mieux convenir aux deux. On va terminer cette capsule avec la possibilité que les travaux puissent parfois justifier une augmentation de loyer et les modalités de l'augmentation. Le loyer ne peut pas être augmenté directement après les travaux si ceux-ci sont faits en cours de bail. Le propriétaire va plutôt devoir envoyer un avis de modification du prix du loyer au locataire concernant le renouvellement de bail et le montant va pouvoir être justifié par les travaux exécutés en cours de la dernière année. Donc, cet avis va contenir le montant du loyer avec son augmentation et aussi le délai de refus accordé au locataire si jamais il veut l'exercer. Donc, voici qui conclut la capsule sur travaux, construction, etc. dans votre logement. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve dans la prochaine capsule pour les questions et réponses. Merci beaucoup de votre écoute. Bonjour et re-bienvenue dans notre balado sur le droit du logement. Donc ici, c'est notre dernière capsule pour notre deuxième semaine d'enregistrement. C'est notre capsule questions-réponses. Donc, comme vous avez pu le constater, cette semaine, on est en présence de notre troisième coéquipier Amine qui s'est joint à nous pour l'enregistrement. Donc, en fait, on va se poser des questions et y répondre dans cette capsule. Ça va vraiment être super interactif. Je vais débuter avec la première question. Amine, est-ce que tu es prêt?
Tout à fait, Charles.
Parfait.
Je t'écoute.
Parfait. Donc, première question. Bon, on en a un peu parlé dans ta capsule sur le chauffage du logement. Fait que si le chauffage de mon logement est inclus dans mon loyer, est-ce que le propriétaire a le droit de déterminer la date à laquelle il va choisir de démarrer le chauffage? Par exemple, le chauffage va juste partir à partir du 15 novembre.
Alors, merci Charlotte pour la question. La réponse est non. La nature peut parfois être capricieuse et il est tout à fait imaginable que la température puisse être plutôt fraîche au mois de septembre et au mois de mai. Donc, en fait, ce n'est pas la date qui compte, mais bien la température qu'il fait dans le logement. Votre propriétaire a donc l'obligation de maintenir une température adéquate, rappelons-le, estimée par le tribunal administratif du logement à 21 degrés Celsius tout au long de l'année. Rappelons toutefois qu'il n'y a aucune loi qui préconise la température d'un logement. Il s'agit ici simplement d'une estimation. Vous payez quand même pour un service qui est inclus dans votre contrat de bail avec votre locataire. Et vous avez le droit d'utiliser le service raisonnablement quand vous voulez.
Parfait, merci. Je vais passer à la question 2. Donc ici, on est en plein mois de janvier, puis il y a une panne de chauffage qui va survenir dans mon immeuble de logement où j'habite à titre de locataire. J'essaie de joindre mon propriétaire, puis il répond pas à son téléphone. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de le rejoindre, puis il va négliger de faire réparer le chauffage. Qu'est-ce que je peux faire?
Alors, dans ce cas, Charlotte, même en tant que locataire, tu peux très bien réparer ou engager une dépense urgente pour faire réparer le chauffage. Dans tous les cas où la jouissance ou l'usage du logement est affecté à cause d'un bruit important et que le locataire est négligent, tous ces cas-là, tu peux entamer les démarches nécessaires pour bénéficier à nouveau de l'usage adéquat du logement. Par contre, il faut s'assurer d'avoir fait tout son possible pour aviser le propriétaire avant de faire quoi que ce soit. Donc la réponse est oui, tu peux réparer ou engager des dépenses urgentes pour faire réparer le chauffage, mais attention, il faut faire tout son possible pour aviser le propriétaire d'abord.
Fait que ça serait une bonne idée, par exemple, de garder les courriels que je lui aurais peut-être envoyés.
Absolument.
Garder tout ce qui est, comment on appelle ça, l'historique d'appel de téléphone.
Tout à fait.
Ouais, parfait.
Tout à fait. L'historique d'appel, évidemment, tout avis écrit et un accusé de réception.
Parfait. Prochaine question, question 3. En résumé, j'ai signé un bail de 12 mois. Mon propriétaire veut faire des travaux au mois de novembre. À la fin des travaux, mon propriétaire m'envoie un avis qui me mentionne comme quoi mon loyer va être augmenté pour les mois restants du bail à cause des magnifiques améliorations apportées à mon logement. Par exemple, il a installé des nouvelles fenêtres, il a installé des nouvelles armoires et une nouvelle porte-fenêtre. Est-ce que mon propriétaire a droit d'augmenter mon loyer en plein bail comme ça?
Pas du tout. Pas du tout. Le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer directement après les travaux. Il doit attendre la prochaine année pour envoyer un avis d'augmentation de loyer et à condition qu'il soit justifié par les travaux qu'il a effectués lors de l'année précédente. Le bail signé par le propriétaire et le locataire est un contrat entre deux parties. Il n'est donc jamais permis à l'une ou à l'autre de décider unilatéralement d'augmenter le loyer en cours de bail. Le prix du loyer et celui décidé au départ et reste le même chaque mois jusqu'à la fin du bail.
Parfait, ça mérite d'être clair. Question 4. Si mon propriétaire m'envoie un avis de modification du prix du loyer pour l'année à venir, est-ce que je peux la contester? Donc, si par exemple, là, il veut augmenter mon loyer là, à cause des réparations, puis là, il m'envoie l'avis, est-ce que je vais pouvoir le contester, cet avis-là?
Tout à fait. Le locataire peut toujours contester l'augmentation du loyer. Pour ce faire, ce dernier a un mois après la réception de l'avis du propriétaire pour envoyer une lettre exprimant sa contestation. Par la suite, le propriétaire peut décider de ne pas augmenter le loyer ou négocier une augmentation à la baisse. Par contre, si le propriétaire veut maintenir l'obligation, il est possible d'aller devant le tribunal administratif du logement qui va fixer le montant du nouveau loyer s'il n'y a pas eu d'entente entre le propriétaire et le locataire.
Question 5. Est-ce que j'ai le droit de changer la façon que j'utilise mon logement?
Avec la signature d'un bail de logement, on peut s'engager en tant que locataire à certaines obligations. Pendant la durée du bail, le locataire ne peut pas changer le but du logement loué. Changer la visée du logement ne servirait plus seulement à loger le locataire, mais à exploiter une entreprise. Et on ne peut pas décider de son propre chef de commencer à offrir un service de garderie dans son logement ou encore ouvrir un salon de coiffure. Donc, si aucun changement physique survient dans le logement, on peut quand même conclure qu'un changement dans la visée du logement a été fait. Et ce n'est pas un argument valide qu'on pourrait justifier auprès de notre propriétaire.
Et dans le fond, moi, si je loue un logement pour habiter là, j'ai pas le droit de commencer une petite entreprise là, dans mon...
Voilà, tout okay, à fait. Okay, okay. Tout à fait. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure par la visée du logement.
Okay.
Qui ne peut pas selon sa propre volonté, de son propre chef, changer à tout moment du contrat de bail.
Ok, parfait.
Alors, Charlotte, à mon tour de te poser des questions.
Yay.
Alors, qui a le droit de changer les serrures qui donnent accès au logement?
Si le propriétaire ou le locataire veut changer les serrures pour une raison quelconque, il doit avoir le consentement de l'autre personne et l'aviser avant de le faire. Donc, le propriétaire peut pas changer les serrures sans vous le dire pendant que vous êtes en vacances, par exemple. Puis, vous, en tant que locataire, vous pouvez pas changer les serrures pour pas que votre propriétaire ait accès à son logement non plus. Il faut que le propriétaire ait accès au logement pour des cas d'urgence, même si le locataire n'y est pas. Donc, ça serait un peu bizarre là, que vous le dites pas à votre propriétaire si vous avez à changer les serrures. C'est sûr que c'est pas une grosse affaire de changer une serrure, mais il faut quand même qu'il y ait un avis préalable à ce changement-là, d'un côté ou de l'autre.
D'accord. Donc, si je comprends bien, je ne peux pas, de mon propre gré, changer les serrures de mon logement. C'est bien ça?
En tant que locataire et en tant que propriétaire, non.
D'accord.
Ouais. Parce que, tu sais, il faut, il y a la remise des clés, là. Il faut bien que quelqu'un, l'une ou l'autre des parties, va avoir accès au logement. Donc, tu sais, ça serait bizarre que vous reveniez de vacances puis que vous faites remettre un autre set de clés, là.
Bien compris, voilà. Ouais. Ça serait effectivement un peu...
C'est étrange.
Un peu étrange, effectivement.
Mais ça arrive. S'il y a des questions comme ça, ça veut dire que ça arrive. Fait que, tu sais, voilà, vous êtes avisé.
Très bien. Très bien, je suis sûr que nos auditeurs en bénéficieront. Alors, la question que j'ai pour toi, Charlotte, c'est comment savoir si j'ai le droit d'avoir un animal de compagnie dans mon logement?
Ah, donc oui, tu poses la question à la bonne personne, là, j'ai fait la capsule là-dessus. Donc, habituellement, cette information-là va être trouvée dans votre bail ou dans le règlement de l'immeuble. Et donc, si c'est pas écrit noir sur blanc dans un ou l'autre des documents, donc s'il n'y a aucune mention, ben en principe, vous allez pouvoir avoir votre animal de compagnie avec vous, mais cet animal-là va devoir rester calme, là. Il va pas devoir déranger vos voisins ou troubler leur jouissance des lieux. Et si jamais vous n'avez pas le droit et vous choisissez quand même d'avoir un animal de compagnie dans votre logement, ben c'est risqué. Votre propriétaire pourrait vous demander de vous en débarrasser de toute façon. Donc, c'est mieux de pas acheter un animal, s'y attacher, puis devoir vous en débarrasser par la suite. C'est sûr aussi que si jamais vous n'avez pas le droit puis que finalement vous en achetez un, le propriétaire pourrait accepter d'avoir l'animal après coup. Mais tu sais, c'est jamais sûr, là. C'est pour ça que c'est un peu risqué. Même si le propriétaire va tolérer l'animal pendant quelques temps, ça ne veut pas dire qu'il va y renoncer nécessairement à la clause d'interdiction des animaux. Donc, il peut toujours revenir sur son mot, là. Puis rappelons-le, en principe, les clauses d'interdiction d'animaux sont toujours valides au bail. Donc, c'est jamais abusif.
D'accord. Donc, la meilleure chose à faire, si j'ai bien compris, c'est de toujours prévenir avant d'adopter un nouvel animal de compagnie, son propriétaire.
Ouais, prévenir que guérir.
D'accord. Très, très bien. Et surtout, ne pas faire l'erreur de prendre un animal de compagnie, s'attacher à lui et devoir le laisser partir.
Oui, tout le trouble affectif qui vient avec ça.
Aïe, aïe, aïe. Très bien. Alors, au moment de la signature du bail, j'ai signé un document qui contenait une clause selon laquelle le logement est propre à l'habitation. Est-ce que cette clause est valide?
Mais en principe, non. Une clause comme ça va être sans effet. Le propriétaire va avoir l'obligation de vous remettre un logement en bon état. Le propriétaire ne pourra pas se baser sur une clause qu'il aurait écrite dans les documents qu'il vous a remis et signé pour vous faire affirmer le contraire ou prétendre que le logement était en bon état alors qu'il n'était pas. Donc, cette preuve écrite-là ne sera pas valide là, devant un tribunal.
Très bien, c'est très, très clair. Admettons que mon logement soit en mauvais état. Qu'est-ce que je peux faire?
Mon Dieu, OK. Si vous constatez une détérioration qui va pouvoir devenir problématique au fur et à mesure que le temps passe, vous allez devoir envoyer un avis au propriétaire pour lui demander de procéder aux réparations qui vont être nécessaires. Cet avis-là doit être écrit. Ça peut prendre la forme d'une mise en demeure là, si vous le souhaitez, si jamais il y a eu comme des avis verbaux là, préalablement. Si le propriétaire, après avoir reçu l'avis écrit ou la mise en demeure, fait rien, alors là, vous allez pouvoir vous adresser au tribunal administratif du logement et le tribunal va pouvoir alors entreprendre certaines démarches, comme par exemple, soit forcer le propriétaire à entretenir ou réparer le logement, va pouvoir vous autoriser à faire vous-même les réparations nécessaires aux frais du propriétaire. Ensuite, va pouvoir forcer le propriétaire à vous verser une compensation financière et puis aussi forcer le propriétaire à diminuer votre loyer. Finalement, dans certains cas, le tribunal va pouvoir aussi résilier votre bail si vous désirez quitter le logement. Vraiment, vous en avez plus rien à cirer là, de cette relation-là avec votre propriétaire. Vous allez pouvoir aussi résilier votre bail sans conséquence.
D'accord, mais rappelons-le, je pense encore une fois, qu'il faut toujours idéalement entretenir des rapports cordiaux et de bons rapports avec son propriétaire pour éviter autant que possible ce genre de situation devant les instances judiciaires. D'accord. Très très bien. Alors la dernière question que je voudrais te poser, Charlotte, c'est les obligations du locataire lorsqu'il est question d'un logement insalubre.
Donc, en tant que locataire, vous allez avoir l'obligation de, bien sûr, maintenir le logement dans un état satisfaisant de propreté. Donc, vous allez devoir faire le ménage de façon régulière, là, comme une personne normale. Puis, vous avez aussi l'obligation de faire usage de votre logement de façon responsable. Bon, par exemple...
Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Par exemple, vous ne pouvez pas conserver à l'intérieur du logement, à moins que votre propriétaire y consente, là, une substance susceptible de provoquer un incendie ou une explosion. Donc, quelqu'un normal ne gardera pas un bidon d'essence dans son 2,5, idéalement.
Idéalement.
Idéalement. Si, en cours de bail, vous mettez en péril la sécurité ou la salubrité du logement par votre bidon d'essence, votre propriétaire va pouvoir déposer une demande auprès du tribunal administratif du logement. Le tribunal va pouvoir vous ordonner que vous versiez des dommages-intérêts, donc une indemnité au propriétaire, et que vous respectiez votre obligation d'entretien. Donc, vous débarrassez de votre bidon d'essence.
Ça, c'est pas bon, le bidon d'essence, hein?
Mais c'est un exemple assez comme... C'est un gros exemple, mais c'est juste pour vous mettre en perspective qu'un bidon d'essence, ça met en danger comme plusieurs vies, dont la vôtre, et c'est pas très sécuritaire là, pour les lieux également.
Donc, toute substance susceptible de provoquer un incendie ou une explosion, hein? D'accord.
Du plutonium aussi, c'est pas...
Du plutonium aussi, ça c'est bon ça. Ça j'y avais pas pensé. Idéalement, pas de plutonium.
Exactement. Puis dans les cas les plus graves, comme le plutonium, si votre négligence est à la source d'un préjudice sérieux, comme l'explosion du plutonium, votre propriétaire pourra demander et obtenir la résiliation du bail. On rit là, mais si jamais vous mettez vraiment la vie en danger des gens dans l'immeuble ou la carcasse de l'immeuble en danger, ben c'est un motif sérieux pour demander et obtenir la résiliation du bail. Et ça va suffire là, pour totalement le couper les liens entre vous et le propriétaire.
Et pas seulement ça, mais il y aura aussi des possibilités en responsabilité, des recours. Il y aura aussi des recours en responsabilité civile. Donc ça peut être très, très onéreux.
C'est là aussi qu'il est important d'avoir des assurances.
Des assurances. On avait traité de ça dans les capsules précédentes.
Voilà. Bon, voilà. C'est ça qui conclut notre dernière capsule pour cette semaine. J'espère que vous aviez apprécié cette capsule un peu plus interactive. On va essayer d'en faire un peu plus dans le futur. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À toi aussi, Amine, je te souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup, Charlotte.
Qu'est-ce que j'ai? C'est à tout n'importe quoi que je catche à la télé. C'est à tous ces selfies qui sautent mon téléphone à chaque fois que je m'ennuie puis que je me cherche du fun. C'est à toutes ces gares qui ne me font plus un pli ou que t'as toutes ces lumières qui effacent la nuit. C'est à la météo qui me brûle la peau du dos. C'est à le prix du pain, presque aussi cher que le vin. C'est à le goût de l'eau, le plan dans mon cerveau. Ou peut-être ma patrie qui a tellement, tellement trop de phobie. C'est à le goût de l'eau, le plan dans mon cerveau. Ou peut-être ma patrie qui a tellement, tellement peur des autres. We'll be right back.
Dans mon grand lit, je pourrais rester toute la journée. C'est là où c'est rendu, c'est pas ce que j'ai voulu. Mais je sais plus qu'est-ce qui se passe, dis-moi, toi, le sais-tu? C'est là où c'est rendu, c'est pas ce que j'ai voulu. Mais je sais plus qu'est-ce qui se passe, dis-moi, toi, le sais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air que toi non plus. On se retrouve-tu au parc ou au coin de la rue? On ira prendre une bière, s'oublier. Au moins on aura fait une chose de notre journée. On ira prendre l'air, respirer. Au moins on aura